Bonjour à tous, c'est le numéro 14 du Tech Jam. Aujourd'hui, on va traiter du cloud. Les autres thématiques que l'on aborde, vous commencez à les connaître. On a le DevOps avec Michel Angron, la productivité avec Jérôme Blin, et une toute nouvelle qui va arriver dans les semaines qui viennent, les jobs dans la tech avec Tanguy Barry. Bref, dans les Tech Jam, on parle de tout ce qui gravite autour de la tech. Et donc aujourd'hui, c'est le cloud avec Anthony Monté. Bonjour Anthony.
Bonjour Sébastien Pastor.
Tu es le CEO de Cloud Mercato, qui est...
cabinet de recherche et consulting spécialisé dans l'analyse du marché du cloud.
Et si je traduis, ça veut dire qu'en fait, tu as des données de malades sur les 10 dernières années, voire plus, sur tous les clouds, quasiment tous les clouds, bah, comme il y en a à peu près un tous les jours, donc c'est ça, quelque chose qui fluctue. Mais donc, toi, tu es capable de donner des performances basées sur de la data, c'est ça ?
Exactement, des perfs, du prix, des certifications, des locations. Je garde dans ma DB tout ce qui me permet de les qualifier.
Et moi, je suis à la tête de Freelancers World et de Sumbub.tech, un outil qui va faciliter le recrutement dans la tech. De nombreux recruteurs ont fini de mettre les derniers coups de polish et ça va sortir. Alors, si vous voulez en savoir plus, laissez-nous votre email sur sumbub.tech. Alors, sumb, c'est comme le pouce, hein. Up, c'est comme en haut. Et point tech, c'est point tech. Voilà. On a tout dit. On rentre dans les cloud news. Anthony, on commence par quoi ?
Bah, on va faire simple. On a AWS qui a sorti un nouveau type de machine. Un nouveau type de machine virtuelle dans EC2. Donc, ça a l'air classique comme ça, mais en fait, ça annonce leur Graviton number 3. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Graviton, c'est les processeurs qui sont créés par AWS eux-mêmes, sous architecture ARM. Donc, historiquement, tout le monde est chez Intel ou chez AMD. On sort une nouvelle VM, on dit chez AWS... voici la nouvelle VM Intel. On sort une VM avec un suffixe A, on dit voici la VM AMD. Et quand ils sortent une VM avec un suffixe G, on est sur du Graviton.
D'accord. Une question, je t'interromps direct. Ça veut dire que AWS, c'est aussi un fondeur de...
Je sais pas si fondeur c'est le terme parce que je crois qu'ils sont pas, ils font pas les puces eux-mêmes, mais je crois que c'est les fondeurs qui font les puces eux-mêmes, mais oui, ils sont fournisseurs en tout cas de CPU pour eux-mêmes.
D'accord, ils les design et ils les font peut-être sous-traiter, certainement sous-traiter en Chine,
mais oui,
qui font l'archi et qui imposent les modèles, etc., quoi.
C'est exact. Ils prennent l'architecture ARM. Donc, à l'ARM, c'est supra moderne en ce moment, en tout cas. Dans le sens où, avec les x86, on était sur de l'empilement de couches, de couches, de couches, de couches depuis 20 ans. Un CPU Intel aujourd'hui, c'est un PC en lui-même. Et avec ARM, on revient sur une certaine simplicité et une rapidité. Et c'est ce qu'on voit chez AWS, en fait. Si on compare les x86 à leur Graviton, les Gravitons sont beaucoup plus rapides dans la plupart des scénarios. Cependant, c'est du ARM. Donc, on n'a pas toutes les applications qu'on a toujours eues.
Ouais, parce que ARM quand même c'est dans le game depuis un certain temps, quoi. Ça a toujours eu du mal à s'imposer par rapport au Intel ou AMD.
C'est ça. C'est à la base, je crois que l'architecture ARM a été faite par une boîte à Cambridge. Tout se passe à Cambridge en fait pour l'ARM en Angleterre. Que soit le fondeur, que soit l'université de Cambridge qui fait les études dessus et qui aide la boîte, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle exactement, la boîte qui a lancé l'architecture ARM, mais peu importe. Ça a la code depuis un bon bout de temps, tout le monde code dessus parce que tout le monde a un petit Raspberry qui traîne dans un tiroir.
Ouais.
Et du coup, il y a plein d'applications, mais les progiciels et toutes les applications qu'on utilise généralement en entreprise, elles sont pas toutes sur ARM parce que on ne s'attend pas à ce que l'architecture d'un Raspberry arrive dans un data center.
Ouais. Mais déjà, que AWS se positionne sur l'ARM aussi fortement, ça veut bien dire qu'il y a du potentiel et il y a du futur dans cette archi.
Ah, mais clairement, 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 clairement. L'idée, c'est que, est-ce que c'est poussé par les consommateurs? Je ne sais pas. Personnellement, je ne crois pas. Mais par contre, c'est poussé par de bonnes idées parce que, plus de perf, on revient à quelque chose de plus simple. C'est pas non plus une tannée de refaire une application sur ARM.
Ouais.
Les repos Debian, Ubuntu, Red Hat, tout ce que tu veux, sont déjà là avec les applications Red Hat. Donc si je veux un Nginx, si je veux un MySQL, si je veux un Mongo, il est déjà compilé pour ARM.
Ouais.
Et ensuite, il y a un gros avantage pour les fournisseurs de cloud, c'est la consommation électrique.
Ah.
Un CPU ARM, je crois que selon eux, les Graviton 3, ils consomment 60% moins. Donc c'est énorme, et qui dit consommer moins dit une plus petite facture d'électricité, mais aussi un plus petit chauffage, un plus petit refroidissement, excusez-moi.
Et oui. Ouais, on les économise à peu près à tous les étages.
C'est ça, sachant qu'ils sont en train de, entre guillemets, fondre eux-mêmes la puce. Donc on peut s'imaginer qu'à terme, en tout cas, leur R&D, ils vont la rentabiliser en faisant leur propre processeur.
Mmh.
Et ensuite, ils vont le mettre en production où ils vont consommer moins, et etc. etc., etc.
Donc, bon.
De leur côté, j'en vois un avantage. Mmh. Pour le consommateur en lui-même, j'en vois pas tellement parce que, ok, il a des perfs en plus. Il a aussi un prix déjà plus bas, puisque à chaque fois, les instances Graviton coûtent moins cher. Mais en vrai, c'est plutôt l'industrie en elle-même qui est en train d'évoluer. Quoi. Et j'ai envie de dire, le sens qu'ils prennent avec la consommation électrique, bah, c'est toujours mieux pour tout le monde. Et beaucoup d'industries, en fait, devraient partir dans ce sens-là et pas attendre le consommateur qui se plaint à dire au fait vous polluez un petit peu trop.
Ouais, parce que c'est vrai que en tout cas dans l'imaginaire un petit peu on voit l'ARM plutôt dans les Raspberry Pi et etc. et peut-être on a moins l'idée que ça peut être utilisé dans des plateformes complètement standard plutôt web. Toi en fait ce que tu dis c'est que finalement pour profiter des performances des prix c'est pas couillon d'être hébergé sur des ARM.
Ah, pas du tout. Enfin, c'est exactement ce que je dis, excuse-moi. AWS, il n'y a pas qu'AWS, hein, KDRM, mais AWS, vraiment, les brands, comme quoi, c'est plus performant,
ouais.
C'est moins cher.
D'accord.
Donc, il y a les deux arguments clés pour dire, allez m'acheter ça tout de suite.
Bah, et du coup, alors, la news, c'est quoi? C'est AWS qui sort ses C7G.
C'est ça. Et les C7, en fait, je te dis à en parler parce que ça se voit que ça va vite chez AWS. On est chez les Graviton, on est sur la troisième génération de Graviton. La deuxième, c'était avant avec la C6G. Et la première, c'était avec une instance qui est passée un petit peu inaperçue pour tout le monde, qui était la A1.
Mm-hmm.
Et la A1, c'était leur premier ébat sur Graviton. Voilà, ils n'en ont pas trop parlé. À partir de la C5, ils ont commencé à se diversifier. Avant, ils avaient Intel, ensuite, ils ont eu AMD. À partir de la C6, ils se sont dit, on va faire Intel, AMD, Graviton. Et la C6G, en fait, je ne crois pas que ça fait un an, en tout cas, ça ne fait pas plus d'un an et demi qu'elle est sortie. Et ils passent déjà à la C7G.
Mmh.
Donc, ça s'accélère assez rapidement. Et quand on voit le rythme que Intel et AMD ont, donc Ice Lake, Skylake, etc., leur génération de CPU, ça va moins vite. Et je pense qu'AWS va aller beaucoup plus vite sur ses ARM se renouveler sur ses gammes Intel et AMD.
Ouais.
Donc, il y a vraiment un intérêt. Sachant que de Graviton 2 à Graviton 3, on a du plus 25% de perf en CPU, plus 50% de perf en RAM, plus 20% de perf en bande passante.
Mmh.
Il y a de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire.
Mais question toute bête, alors pourquoi tout le monde passe pas sur ces plateformes? Est-ce que c'est un problème justement de portabilité des applications ou d'autres raisons?
Honnêtement, je ne sais pas. Je pense qu'il y a ce problème de portabilité qui reste dans le coin de la tête des utilisateurs.
Ouais.
Mais il y a aussi le fait que, comme je disais, pour moi, ça ne semble pas être une demande des consommateurs. C'est le fournisseur en lui-même qui évolue, quoi.
Ouais. Ouais. Mais bon, moi, si on me dit c'est les mêmes perfs, voire mieux, et c'est moins cher, du coup, j'aurais plutôt...
Ah oui, mais ça, va parler un petit peu au FinOps, et tu verras que leurs clients, ils n'ont pas besoin de renouveler leur VM, même quand elle coûte cher, des fois, ils se disent « Ah bah, ça marche, c'est que c'est le prix.
» Et j'avais une question toute bête, mais le C dans C7G, c'est parce que c'est les instances génériques, ça, ou c'est les instances...
Ça dépend ce que tu appelles générique, mais chez AWS, c'est plutôt compute optimize.
D'accord.
Donc, avec un ratio de 1 CPU pour 2 Go de RAM. Et ce, de 2 CPU jusqu'à 87.
D'accord. Donc elles sont quand même plus recommandées pour du vrai compute ou alors c'est
moi j'ai un pourquoi est-ce que je te dis entre guillemets c'est du général purpose ou du compute? C'est parce qu'en fait si on demain ils vont nous sortir la M7G et la R7G. La M ça correspond à general purpose, la R ça correspond à RAM, donc plus de RAM.
Ouais.
Et ce sera les mêmes CPU, ce sera juste le ratio de RAM CPU qui change.
D'accord. Okay.
Chez certains cloud providers, c'est autre chose. Voilà, ils peuvent te dire mon compute optimize, c'est du high frequency, par exemple. Chez AWS, ce que je vois pour tous les flavors, c'est qu'ils changent juste le ratio CPU. Hein.
D'accord. Ouais. Ok. Bon, mais c'est clair, moi je ne le savais pas. J'aurais appris encore un truc grâce à toi. C'est terrible.
Bon. Mais du coup. Honnêtement, si je dois donner mon petit conseil à ceux qui veulent aller vers l'ARM, votre load balancer, votre Nginx, votre MariaDB, enfin tous ces trucs que c'est pas une application qu'en fait vous développez, vous pouvez les mettre sur ARM assez facilement, un MariaDB sur ARM ou sur x86, pour l'utilisateur c'est toujours des requêtes SQL. Donc ça change que dalle. Et c'est ce que AWS fait d'ailleurs avec ses autres services. Si on va sur RDS, il me semble qu'ils ont sorti des instances RDS avec leur processeur ARM. Ce qui fait que c'est plus rapide, c'est moins cher. Enfin, il y a tous les avantages de leur ARM. Et l'utilisateur a encore moins à se soucier de pourquoi est-ce que je devrais prendre du ARM. Ouais, c'est une DB. Voilà, tu commandes une DB, c'est une DB. Quoi.
Ouais. Donc, allez tous sur l'ARM. Go, go, go. Nous, on a eu un petit pourcentage, mais ça, on vous dira pas. À chaque création d'instance ARM. Mais bon.
Et petit détail quand même, il n'y a pas que AWS qui a du ARM. Il y a Oracle aussi qui en a. Google n'en a pas, il me semble. Azure n'en a pas. Je sais que Alibaba, Huawei ont du ARM. Ils ont aussi du RISC, pour ceux qui s'intéressent. Et tant qu'on parle d'architecture un petit peu exotique, il ne faut pas oublier le Power Cloud chez IBM avec une architecture Power qui est ultra rapide, mais ouais. Vraiment indécemment rapide.
Ouais, il me semble que tu avais fait un truc là-dessus. On avait déjà parlé des Power PC chez IBM.
Ah. Yes, il me semble, ouais.
C'était plus finalement orienté. AI et machine learning, non?
Je dirais pas AI et machine learning parce que je lutte à installer des frameworks d'IA dans une architecture Power.
D'accord.
Mais à la base, cette architecture-là, elle était beaucoup utilisée avec une de leurs applications qui est DB2, il me semble. C'est une grosse base de données de type, je dirais pas warehouse, mais pour gérer une entreprise, en gros. Si je dois comparer ça, on compare souvent DB2 à Oracle Database. Et DB2, c'est obligatoirement dans des grosses échelles. Et si je dois te donner un truc qui te parle, peut-être, vu ton âge avancé, la S400.
Ah non, quand même.
La S400 correspond à ta génération, je crois. Et du coup, DB2, ça fait partie des évolutions de la S400, la DB, de la S400, tout ça, nanana. Et PowerPC est assez lié à DB2, en fait.
D'accord.
Bon. Donc, là, une gestion de base de données énorme.
Eh ben bien, est-ce qu'on a fait le tour sur Graviton?
Ouais. On peut en faire un deuxième, si tu veux.
Attends, regarde, je tourne sur moi-même, mais ça donne rien. Même en stream, ça ne marche pas. Il me semble que juste après, tu avais un petit sujet sur les serverless, c'est ça?
Ouais. Alors, on a un super cloud super connu, qui est super bien, qui s'appelle DigitalOcean, qui a enfin sorti son serverless, donc Function as a Service. J'ai envie de dire, c'est pas tellement exceptionnel, mais en fait, c'est DigitalOcean, c'est un petit peu le leader des small and medium cloud providers, et ça fait un bon petit bout de temps en fait que tout le monde attendait de voir ça chez eux. Pour l'instant, c'est pas à l'arrache, mais pour l'instant, c'est simplement un service disponible sur leur console. On n'a pas d'API, on a quelques contraintes. Par exemple, on n'a pas de scheduling de tasks. On n'a pas tout.
Ah oui.
Mais ils lancent le service, ils ont plein d'oseilles, ils sont en Nasdaq, je ne sais pas quoi. Donc, je pense que sur leur roadmap, ils vont évoluer assez vite, sachant que serverless, enfin Lambda chez AWS, est sorti il y a peut-être 7 ans, 8 ans, plus que ça même. Et que chez Lambda, on est déjà à avoir des triggers dans tous les sens. On est déjà à avoir, comment ça s'appelle, différents types de machines pour nos fonctions. C'est pas encore ça chez DigitalOcean, mais
D'accord.
c'est un premier pas.
C'est super étonnant ça. Moi, je savais pas qu'ils étaient pas, ils étaient, ils avaient pas ce type de service. Et alors que justement, on en avait parlé avec Scaleway, qui ont déjà sorti ça il y a quelques mois, même quelques années, en fait, il me semble.
Ouais, leur bêta SkyOS, ils l'ont sorti l'année dernière, en
Ouais.
début d'année, je crois, la bêta de Function, ils ont sorti la finale cette année. Ouais, je crois que c'est ce qu'ils disaient, SkyOS, justement, que c'est les premiers d'Europe à sortir un service tel que celui-ci.
Ouais.
Et oui, Cocorico, je leur dis clap, clap, clap. Si on doit revenir à DigitalOcean et regarder un petit peu leur historique, si on se met dans le cloud, il y a, je sais pas, 10, 12 ans, et que tous les fournisseurs qui proposent tous des VM, les hyperscalers qui proposent des services un peu particuliers, etc. En fait, les petits cloud providers type Exoscale, DigitalOcean, Linode, tous ces small and medium cloud providers, qui, entre parenthèses d'ailleurs, avaient tous les mêmes prix, mais strictement tous les mêmes prix, ils ont commencé à vraiment évoluer qu'à partir du moment où leurs consommateurs leur ont demandé des Kubernetes.
Ouais.
Avant ça, ils faisaient que de la VM, block storage, backup, des choses comme ça. Certains faisaient un petit peu d'object storage, mais honnêtement, ils se concentraient tous sur la VM. Et une fois que tous les utilisateurs ont demandé des Kubernetes, pour eux, il s'agissait juste d'installer un Kubernetes en interne pour permettre à leurs utilisateurs de gérer leurs instances avec un Kubernetes. Donc, c'est compliqué, mais c'est pas si compliqué que ça.
Ouais.
Et maintenant, ils commencent à sortir tous les services, manage database, oh, tu veux un MariaDB, tu veux un Postgre, tu veux un Mongo, tu veux ceci, tout. Ils commencent vraiment à tout sortir des services. Et le serverless, c'est pas le edge, mais on commence à vraiment entrer dans la modernité, entre guillemets.
Ouais. Et d'ailleurs, ouais, en parlant de modernité, enfin moi, si j'étais un cloud provider, je me ferais pas chier avec des instances, avec un service d'instance justement, et j'irais directement sur le serverless. Est-ce que c'est pas ça qu'ils font Rising Cloud? T'as
Ah,
vu
tout
cette
à fait.
synchro? Oh putain!
Ah non, c'est transition. Waouh, je me
Il
suis dit, mais attends, il me change de sujet, mais. Ah, mais oui, oh, il est trop fort.
est
Ah, il est
fort,
trop
le
fort.
pasteur, ça rime, il est fort le pasteur. Vas-y.
Ah, il est trop fort. Alors, c'était, je crois, jeudi dernier, quelque chose comme ça. Je naviguais sur l'internet à la recherche d'informations. Et je tombe sur un truc, un partenariat Backblaze Rising Cloud. Donc Backblaze, je connais déjà, c'est un cloud provider américain qui est spécialisé dans le stockage de data. Si on doit se mettre dans un contexte cloud, ils sont uniquement object storage provider. Donc ils ont un object storage et au-dessus de cet object storage, ils proposent différentes solutions comme des solutions de backup ou je crois qu'ils ont un machin assez similaire à Dropbox où vous pouvez avoir une intégration sur votre poste. Et je vois donc qu'ils font un partenariat avec Rising Cloud. Je me dis, tiens, encore une entreprise qui finit par cloud, ça doit être un cloud. Du coup, je vais voir qui ils sont. Et je tombe sur un site internet qui est clair et peu clair en même temps. Il est peu clair parce que j'ai pas envie de les dénigrer, donc je cherche mon vocabulaire soft. En fait, c'est rempli de phrases qui veulent pas dire grand-chose. Venez chez nous, vous aurez moins cher. Venez chez nous, on est le cloud, on est intelligent workload as a service. Voilà, c'est comme ça qu'ils se
Ah
décrivent.
oui.
On est moins cher que tous les autres, on a les meilleures perfs que tous les autres. Oui, d'accord. Enfin, moi, je suis cloud mercato, donc pour être honnête. Un discours aussi avancé, enfin, qui se dit on est les meilleurs autant en première page comme ça dès le départ, c'est fort, c'est fort. Je regarde tous les clouds, même quand ils se disent quelque part un petit peu meilleur, là quand même, ils se disent beaucoup meilleurs que les autres.
Ils sont bons partout.
Ouais. Et donc, j'essaye de décrypter un peu qu'est-ce que c'est que leur solution. Et si je dois bien comprendre la chose, ça m'a l'air d'être un pass moderne. Ah. Alors, quand je dis un pass moderne, il y a plein de manières de voir les passes. Par exemple, on a eu Mathieu avec Idora, donc un pass de type Jelastic. Jelastic, ça ressemble un peu aussi à Clever Cloud. On a aussi Scaleway qui se dit pass. Pourtant, ils proposent des VM, mais l'idée, c'est qu'ils ont tous les services conteneurs as a service, ils ont le serverless, ils ont plein de choses qui permettent de se passer de VM et donc d'être une plateforme, de pouvoir utiliser les choses sans être un admin, en fait. Et pourquoi je dis que Rising Cloud est un pass moderne? Parce que déjà, ils ont été montés en 2020-2021. Donc, ouais. On peut se dire déjà que si on les compare par exemple à Heroku, qui est un pass, ils sont post-Docker, post-Kubernetes pour Rising Cloud.
Ouais.
Donc, forcément, ils ont une manière de penser qui n'est pas la même que les acteurs historiques du marché, pour commencer. Et leur manière de faire, c'est plus celle en fait, des CI/CD. Je crée un repo GitHub, je mets du code dedans, je mets un YAML qui correspond à la référence de Rising Cloud, et ensuite ils vont s'occuper de mon code. Et qu'est-ce qu'ils veulent dire par s'occuper du code? Ils veulent dire qu'en fait, si je comprends bien, parce que je n'ai pas encore mis les mains dessus, il faut les contacter pour pouvoir s'inscrire, et je suis en train de les contacter, rendez-vous dans pas longtemps avec le CEO, tout ça,
ah
pour
ouais.
discuter plein de choses. Non, il n'y a pas besoin d'avoir un rendez-vous avec le CEO pour s'inscrire, hein. C'est moi, Anthony Monté, parce que j'ai envie d'en savoir plus en tant que Cloud Mercato, j'ai rendez-vous avec eux.
Mais du coup, on pourrait les avoir peut-être sur un Tech Jam, ce serait top, hein, vu qu'ils sont tout nouveaux, tout beaux.
Yes, if you want to speak about Claude, nos problèmes.
It is in English?
For sure.
It is no problem. It is no problem.
Ah, yes. Ok.
That's absolutely terrible what I hear.
Wow.
Oh, there was Michel Angron trying to pretend to speak with a good accent.
I do. I speak English every day, so.
Wow.
T'as vu ça? Incroyable.
Ah bah,
il s'invite comme ça et hop.
Et on se la pète.
Ah non, mais du coup, j'ai plus peur. Si on l'invite, on aura Miché et je mettrai les sous-titrages dans le jam, dans le podcast.
Mais carrément. On fait tout passer par Miché qui nous fait une version.
Ah, j'aurais mieux fait de fermer ma gueule.
On lui dit pas qu'il est même en anglais, il a un accent suisse. On lui dit pas.
On garde ça pour nous.
Voilà. Donc, hein.
Donc je disais que on fait un YAML, on fait du code, on met un YAML qui correspond à la référence de Rising Cloud, et Rising Cloud va être capable de gérer nos repos avec ce YAML et de faire une archi. Et l'intérêt que je vois chez eux, pourquoi est-ce qu'ils disent qu'ils ont des super perfs, c'est d'abord parce que ils ont l'air de baser leurs conteneurs sur du bare metal. Pour ceux qui sont pas au courant, quand vous faites du Kubernetes, généralement, vous mettez vos VM, vos conteneurs sur des VM, vous créez des VM qui seront votre archi, et vos conteneurs iront sur des VM. La VM a forcément mais il y a des cloud providers qui réduisent ça, cet overhead qui est dû à la virtualisation, qui fait une baisse de performance, et aussi qui peut faire une baisse de performance, notamment quand le bare metal commence à avoir plein de VM concurrentes. Et là, eux, ils disent « Non, vos conteneurs, ils tournent direct sur le bare metal, donc forcément, on a des meilleures perfs. » De loin comme ça, moi, je vous dirais qu'on peut avoir entre 15 et 30% de perfs en plus juste en tournant sur conteneur directement sur bare metal, ce qui est bien.
Ouais.
Et pour ce qui est du software, ils disent aussi qu'ils ont un scheduler, parce qu'en fait, on leur donne des tâches au final, puisqu'on leur donne des conteneurs. Ils ont un scheduler qui est basé sur une intelligence artificielle qui va s'adapter automatiquement à vos workloads.
Oh.
Ça a l'air magique, ça a l'air beau.
Ouais.
J'aime, c'est sympa. Mais c'est quoi ces workloads? On est sur un pass qui veut se vendre. Donc les workloads, premièrement on a le web, hein, voilà, fais-moi un serveur web. Le deuxième, on a les tasks, on est toujours dans un contexte web au final. Moi, par exemple, je suis développeur Django, quand j'ai commencé à faire Django, il y a eu Celery, et en même temps que Celery, il y a eu RabbitMQ, donc tout le monde voulait faire des queues, tout le monde s'est rendu compte que waouh, tu peux faire une DB qui se vide toute seule. Bref, on a les événements, donc voilà, tu peux attribuer un événement, des triggers, des choses comme ça à tes tasks. On a du cron, forcément, pour lancer des tasks à un moment. Et on a du scheduling et du daemon. C'est-à-dire que tu peux aussi avoir des tâches qui restent en arrière-plan et qui attendent qu'on leur demande quelque chose.
D'accord.
Un peu comme les démons, comme le web, sauf que là, c'est un peu différent. Tu remarqueras dans tout ça, je t'ai parlé de plein de choses, mais je t'ai parlé que de computer. Tram, Miché, tu parles vraiment mieux anglais que moi.
C'est ouais,
de calcul, donc.
Le calcul. C'est plus court.
Et donc, il n'y a pas de DB. Il n'y a pas de DB, de tout ce que j'ai trouvé dans leur doc, à aucun moment donné, ils nous disent prends une DB Maria ou prends un Postgre par ici pour faire tourner ta plateforme web. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils fonctionnent de manière moderne et ils sont plus sur des DB cloudifiés, j'ai envie de dire, de type Mongo Atlas,
ouais.
Firestore chez Google, si ça s'appelle Firestore ou Firebase plutôt, excusez-moi. Et ce type de DB qui est directement web, qui est redondé internationalement, disponible partout, et que les utilisateurs en fait accèdent par eux-mêmes via des requêtes HTTP, plutôt que d'avoir sa DB dans le fond à manager avec son middleware, etc. Là, on est sur un autre format de web.
Mmh. Ouais, mais j'ai envie de dire, ils ont tout compris. Hein. C'est vraiment, architecturellement parlant,
c'est français ça. Hein,
ouais, c'est pour ça. c'est quand même vachement plus simple pour eux de mettre en place ces services. Enfin, je veux dire, par rapport à, justement à des bases de données, etc., à gérer, etc. Et là, ils s'en mettent pas. Et puis, ils restent que sur du compute et leur orchestrateur. IA, finalement, il y a. J'arrête pas de le sortir, mais il y a Nomad qui fait déjà ça et ils appellent pas ça une IA pourtant. Donc c'est vraiment bien joué, moi je trouve, c'est vraiment top. Tu disais qu'ils sont sortis en 2021, c'est ça, 2021 ?
Ouais, c'est ça.
D'accord.
C'est ça. Et du coup, on va essayer de les avoir ici, on va faire une interview in English, tout ça.
Bah,
c'est
ouais.
Sympa.
Rising Cloud, c'est. Déjà, je demanderai comment ça se prononce. Hein, c'est comme Scaleway. Alors, on dit Scaleway ou...
Scalva.
On fait Rising Cloud ou bien. D'accord.
Rissinge.
En tout cas, Rissinge. À suivre.
Yes.
Question à 2 euros. C'est un cloud que tu es en capacité de tester avec tes outils merveilleux de Cloud Mercato.
Ah, mais bien sûr. En fait, si on part sur le principe d'un worker, ça veut dire qu'il y a du CPU, il y a de la RAM, il y a du réseau.
Ouais.
À partir de là, oui, c'était chez eux, dans leur doc, je crois que j'ai lu ça. Tu peux lancer des workers avec tous les langages, tout est disponible, c'est assez simple, YAML, il est très simple. Et ils ont un worker C++ qui te permet de compiler ce que tu veux et de lancer. Parce que on est bien sûr sur... on a un petit CLI pour l'utilisation, pour vous parler un petit peu de l'utilisation de Rising Cloud. Il y a un petit CLI qui est fait pour parler avec leur API directement. Et ce petit CLI, on peut tout simplement connecter, dire ce repo-là, il va être utilisé. On peut dire « build-moi cette task, mets-la-moi available, mets-moi un cron là-dessus, etc. » etc. Donc, du coup, moi, si je peux dire « build-moi ça », dans mon build, je mets ce que je veux et je collecte ce que je veux après dans le run. Quoi.
Et concrètement, là, si j'ai bien compris, on peut quand même avoir de l'hébergement web et c'est, en gros, tu fais une fonction qui est en mode démon et qui va servir des pages. Quoi. C'est un nouveau paradigme, c'est ça ?
Oui. Je pense que le démon, c'est un cas particulier. Parce que la partie web, je pense que c'est un démon derrière aussi. Mais je pense que si tu lui dis web, leur IA saura mieux s'adapter à se dire « Ah tiens, c'est un port 80 !» Tu vois, ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Mais je pense que le web est clairement plus adapté si tu as envie de faire une archi web. Et pour le web, tu peux faire de la fonction classique « Ah tiens, une requête qui arrive, fais ta tambouille et envoie-lui une réponse. »
D'accord. Mais web, c'est un type particulier dans l'YAML, c'est ça que tu veux dire ?
Non, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire par là, c'est que eux aussi, Rising Cloud, ils gèrent un peu plus que juste « je te laisse du daemon ». Par exemple, pour le web, tu peux créer une authentification sur leur interface.
D'accord.
Dire « je veux créer tel type d'authentification ». Donc, c'est pas, c'est un petit peu comme si je te parlais de Object Storage et de Dropbox. Il y en a, ils te vendent un espace illimité. Il y en a, ils te vendent un espace illimité avec une surcouche de collaboratif dessus.
Bah là, pour le web, c'est un peu la même chose. Je te vends un truc, ok, c'est un truc qui peut te faire tourner tous tes démons, mais je te donne un peu, je te donne en plus une couche web, une couche de technicité par-dessus qui peut t'aider dans ton travail de tous les jours.
D'accord. Ok. Bon, il va falloir creuser un petit peu avec eux.
Yes.
Et j'espère qu'on va pouvoir leur parler bientôt. Alors, je te laisse œuvrer et les harceler avec ton accent parfait. Moi, j'adore ton accent.
Sûr.
Bref, et on quitte.
Mais moi aussi j'aime ton accent, Anthony, t'inquiète pas.
Je m'inquiète pas.
Merci à Mignon, bisous, tout ça. Bref, mais avant d'arriver à cette étape, on va parler d'autres choses que le serverless. Il me semble qu'on avait sur la liste les GPU ou pas.
Ouais. Oui. On a du dur, des GPU. Nvidia à 100.
Ah.
C'est un petit cloud provider que je crois qu'on en a déjà parlé, Vulture.
Donc,
Vulture, pour ceux qui connaissent pas, c'est un cloud provider américain, encore une fois, qui est dans la niche des small and medium cloud providers. Ils sont arrivés, il me semble, à peu près en même temps que DigitalOcean, en tout cas sur le marché du cloud, et ils font partie de la ligne que je disais tout à l'heure, où pendant un moment, ils avaient exactement les mêmes prix que DigitalOcean.
Ouais.
Et du coup, Vulture, ils sont en train de se renouveler depuis quelques années. Comme je disais, il y a cette nouvelle tendance avec les Kubernetes et tous les services que leurs clients veulent voir. Et ils ont sorti des instances GPU, ce qu'ils n'avaient pas depuis qu'ils sont Vulture. Il me semble que j'avais jamais vu de GPU chez Vulture. Et comme je disais, c'est des Nvidia A100, donc c'est les derniers, je pense, les derniers de chez derniers GPU data center chez Nvidia. Je rajoute bien data center parce que il y a les GPU pour le grand public. Je crois que c'est les RTX, RT, etc. C'est les trucs qui sont tout le temps en rupture de stock pour les gamers parce qu'il y a les mineurs qui sont pas loin. Et il y a les cartes de data center de type V100, A100, etc. Et qui sont plus faits pour les data center. Et Vulture a donc acheté ce type de data de cartes.
Ouais.
Et ce qu'ils ont fait avec, c'est que plutôt que de dire on vous propose par exemple une machine virtuelle à 8 CPU avec un A100 dedans, eux ils ont monté des grosses machines avec 8 GPU A100 dedans et ils divisent cette grosse machine pour vendre des machines virtuelles. Vous me direz, classique pour un cloud provider, sauf que ce qu'ils font, c'est que pour les plus petites VM, ils divisent leur GPU en plusieurs parties. Donc, si on prend la plus petite VM de ce nouveau genre de VM chez Vulture, on a, je crois, deux CPU, mais on a un vingtième de GPU. Cette technique, elle n'est pas non plus révolutionnaire. J'ai déjà vu ça chez Azure, j'ai déjà vu ça chez d'autres cloud providers. Par contre, là où est-ce qu'elle est un petit peu différente, c'est que on n'est pas chez les hyperscalers. Et ensuite, si vous fractionnez votre card, vous pouvez en vendre plus, vous pouvez faire du management, et d'un coup, on est sur quelque chose de plus fin. Mais les autres le font déjà.
Mmh.
Sauf que les autres ne le font plus, en fait. Tout simplement. Si on prend une A100, on va chez Google, ou... Non, chez Google, c'est un peu particulier. Mais on prend une A100, on veut une A100, on va chez Azure, ou on va chez AWS, on aura une P4 96 avec 96 CPU, 8 GPU dans la machine à 30€ de l'heure, alors que Vulture me laisse l'opportunité de choisir est-ce que je veux une très petite, une petite, une moyenne, une grande, etc.
Okay.
C'est sympa. Ça donne du GPU, mais c'est quoi ces GPU? Alors, a priori, un A100, pour ceux à qui ça parle, c'est à peu près 7000 CUDA core, 432 Tensor Core, des NVLink qui permettent d'atteindre, je crois qu'on est à 300 gigabits par seconde chez Vulture, et on en a 8 par barre métal. Je pense que tout ça, ça parle pas à grand monde.
Non.
on a 80 gigas de RAM, ça parle, non, je pense, 80 gigas de RAM sur chaque GPU. Alors,
oui,
pourquoi est-ce que je parle de tout ça? C'est parce qu'en fait, les GPU aujourd'hui, comme je disais pour les Intel avant, c'est des PC en eux-mêmes. Dedans, il y a tout. Il y y a le CPU, il y a la RAM, il y a le réseau entre les différents trucs, il y a le réseau jusqu'à la RAM du vrai ordinateur. Du coup, faut les décrire. C'est avec Jean-Louis Quéguignet, excuse-moi, salut Jean-Louis, qu'on avait commencé un petit peu à discuter de ça, où lui, il définissait les GPU comme des cartes Pokémon, où en fait, tu prends ta carte, tu la regardes, il y a ses stats dessus, et en fait, tu sais que cette carte-là, elle va me servir à faire plus ça que ça.
Ouais.
Et même si Nvidia te dit, voici la dernière carte, elle est meilleure, ça ne veut pas forcément dire qu'elle sera meilleure avec ton workload, ou en tout cas, avec... ton workload, si tu dois être sur un environnement cloud où tu partages un GPU où tout le monde n'a pas accès. Je dis ça parce que dans un GPU, les CPU qui sont dedans, quand je vous disais des CUDA Core et des Tensor Core, on est à peu près à 7500 cores au total. C'est eux qui sont les unités de calcul. Donc on pourrait se dire, waouh, j'ai 7500 CPU dans mon GPU, ça va aller super vite. Bon, déjà, il faut se dire qu'un CPU, c'est un petit peu moins... Un GPU est un petit peu moins rapide qu'un CPU. Cependant, il y en a plein, donc on n'est pas capable de paralléliser beaucoup de choses.
Ouais.
Et ce qu'on peut se dire, c'est que, si je prends un vingtième de 7500, j'aurai toujours, 300 ou j'en sais rien, corps sous la main. Ça, c'est cool. Il n'y a pas de problème. Le problème de tout ça, c'est que ces CUDA Core, en fait, ou ces Tensor Core, ils ont des fonctions spécifiques. Quand je dis fonctions spécifiques, ce n'est pas tellement des fonctions, c'est plutôt des types de valeurs. Quand on prend un CUDA Core, il y a des CUDA Core qui sont des FP32, donc qui sont faits pour traiter des floating points, en français, des nombres à virgule flottantes, à 32 bits, il y en a qui sont faits pour traiter à 64, il y en a qui sont faits pour traiter à 128, quoique 128, il n'y en a jamais. Et du coup, si j'ai besoin d'une tâche avec uniquement des 32 et qu'il n'y a que des 64 qui sont disponibles, ma tâche pourra aller potentiellement moins vite. Pareillement, il y a les Tensor Core. Les Tensor Core, c'est des cores qui sont adaptables, qui permettent de calculer plus vite sur différents tailles de floating point. Bah, s'ils ne sont pas disponibles pour moi, ou si dans ma division de un quart de GPU, on ne m'en donne que 4, bah, mes calculs seront plus lents ou ils seront faussés parce que je n'ai pas ce dont j'ai besoin pour faire mes calculs.
D'accord. Donc, ce que tu veux dire, c'est qu'il faut vraiment savoir de quoi on parle si on veut bien tirer tout le potentiel des
GPU.
GPU
de tout à fait.
Justement. Et encore plus compliqué avec Vulture, vu qu'ils font des fractions de GPU.
Exact. Ils font des fractions. Ce que tu dis est très pertinent, parce que moi, sur tous mes benchmarks de GPU, la perf d'un GPU, peu importe le cloud, c'est tout le temps la même. Je dis pas, quand on commence à faire des gros scénarios très complexes, où les GPU doivent communiquer entre eux, on implique du réseau, ça change peut-être. Si on commence à impliquer du réseau, la carte mère du PC en lui-même, oui. Mais sur la base, les GPU, où qu'ils soient, ils ont la même perf. Ce qui sera le facteur déterminant, c'est le prix. Oui.
D'accord. Et d'une manière générale, alors pour essayer de bien comprendre, à qui c'est destiné cette offre Vulture ? C'est pour faire quoi, en fait, tous ces GPU ?
Clairement, machine learning. Machine learning, deep learning. Ouais, je dirais même deep learning pour les plus grosses instances, parce que 8 GPU, c'est énorme. On a du 160 gigas de RAM. Non, oui, à peu près, quoi. C'est juste énorme. Toutes les datas que tu peux faire entrer dedans, et c'est pas tous les modèles en fait de machine learning qui ont besoin d'une aussi grosse masse pour faire rentrer de la data dans un ordinateur.
Ouais.
Donc les plus petites VM, c'est très bien pour faire du testing de tes modèles, de pouvoir se dire ok, sur un GPU ça donne ça, de pouvoir faire de l'architecturage, et plus tu montes, plus c'est des besoins spécifiques en machine learning. Du type, je sais pas, Natural Language Processing, par exemple GPT2, ça nécessite vraiment beaucoup de RAM pour pouvoir, ne serait-ce que par exemple, pour pouvoir traiter du son. Tu vois, le son, forcément, c'est lourd. Pour pouvoir traiter ça, tu as besoin de beaucoup de RAM, donc tu iras plutôt dans les gros scénarios. Et quand on parle des gros scénarios de Vulture, on est sur du 8 GPU à $20 de l'heure. Avec ça, on a du 96 GPU, on a une tonne de RAM sur la machine, on a, je crois, 8 disques de 1 Tera en NVMe, donc ils te mettent le paquet.
Ouais.
Et à vrai dire, ils te mettent le paquet aussi chez les autres cloud providers. Je te disais que chez AWS et chez Azure, si tu veux la même carte graphique, il te faudra des VM à 96 CPU pareil, parce qu'il n'y a que celles-là qui sont disponibles. Et pareil, AWS et Azure, ils te mettent le paquet sur les specs de la machine de base, mais ils ne proposent pas ces plus petites divisions. Ils ne proposent même pas de vendre juste un CPU, ou un GPU, ou deux GPU, ou quatre GPU. Ils sont directs à 96, les autres.
Et si j'ai une appli qui fait du traitement vidéo, c'est vers, enfin, je peux en tirer parti de ces...
Oui. J'ai déjà fait des tests il y a très longtemps où je compilais... FFmpeg sur... Je faisais du FFmpeg avec des codecs vidéo,
ouais.
Avec des codecs GPU. Donc ça peut servir. Après, chez AWS, et il me semble qu'il y a aussi cette solution chez Azure, pour ce qui est dans l'IaaS, non seulement tu as des VM spécialisées dans l'encoding vidéo,
ouais.
Et pour ce qui est du PaaS, c'est-à-dire, ou ça dépend comment vous définissez la chose, AWS a un service de transcoding vidéo.
D'accord. Je pensais plus à du streaming ou des trucs comme ça, à du streaming live. Ouais.
Bah, il y a même des instances streaming chez AWS, en fait. Ouais.
Ils ont tout.
Après, il faut aussi dire que la A100, les types A100, ça a plus un profil data center que vidéo. Enfin.
D'accord. Bah, justement, si...
C'est une carte data center.
Si je recherche à faire du... du traitement vidéo sur serveur, mais pas du transcoding ni d'encoding, mais du streaming. C'est pas, enfin, j'aurais pas des gains en allant sur une instance GPU.
Des gains en perf, si, je pense que t'en auras.
Ouais.
Mais d'abord, je pense que les CPU et plein d'autres choses, ils sont capables de transcoder assez rapidement.
Ouais.
Et ensuite, un GPU, ça coûte cher. Hein.
Ouais.
ça coûte vraiment cher, un GPU.
Ok. Bon. Ok.
Et entre parenthèses, d'ailleurs, un GPU, ça coûte cher. C'est pour ça qu'un ARM qui est très rapide et très léger et qui ne consomme pas beaucoup, dans le futur, il y a de fortes chances que GPU et ARM, ça se clash. Et moi, ça ne m'étonnerait pas du tout que ce soit l'ARM qui remporte la situation.
D'accord. Pour des workloads qui traditionnellement étaient sur du GPU, qui soient portés sur l'ARM.
Bah, pour tout le machine learning déjà.
D'accord. Ok. Donc,
faut pas oublier qu'Nvidia a voulu racheter ARM. Hein. Ouais. Pas pour rien d'ailleurs. Et ben... Moi personnellement, j'ai pas encore fait de machine learning sur ARM parce que le seul framework que je connais un tant soit peu, c'est TensorFlow et voilà la misère pour le compiler sur ARM. Donc je l'ai pas encore fait, mais clairement si tu fais des choses comme PyTorch et autres, c'est easy de faire sur du ARM.
D'accord. Je regarde ma montre et je constate qu'on arrive sur la fin du jam. Il me semble qu'on avait il y a un petit teaser qu'on pouvait mettre en place concernant le travail que tu fais chez Cloud Mercato, ouais. La nouvelle étude sur laquelle tu es en train de besogner. Il concerne l'état de l'art du compute pour Q2 2022. C'est bien ça?
C'est exact. Alors, rapidement, ouais. Très rapidement, elle est encore en cours. Il y a une 25 à 30 cloud providers, je crois, testés sur différentes catégories, standard, enfin, général purpose, compute optimize, memory optimize et extended memory. Parce qu'on a des VM qui ont trop de mémoire et qui créent une catégorie en elle-même, quoi. Et ça va être disponible très rapidement. On fait plein de tests. Si je dois vous donner un petit teaser qui est vraiment un teaser, ce ne sera pas une bande d'annonce comme fait voilà, Warner, parce que clairement, ça peut changer. Hein.
Ouais.
Je continue à tester et si ça se trouve, j'aurai quelqu'un qui est super fort. Dans le classement des perfs, on a Nuage qui est très bon, qu'on avait invité.
Ah yes, d'accord.
On a Oracle qui est très bon aussi. Ensuite, plus en dessous, on a Etzner, Scaleway, Orange et OTC.
Ouais.
Tu remarqueras que j'ai parlé beaucoup, à part Oracle, il y a beaucoup de Français européens. Quoi.
Et ouais, je vois ça, hein. C'est
Et
cool.
après, au niveau prix-performance, il y a OVH, Oracle et Eisner qui cassent la baraque.
D'accord. Et pourtant, on n'était pas sur du compute européen, hein. C'est bien. Tu parles
Ah,
de.
si, c'est compute européen.
Ah, c'est européen.
Enfin, c'est compute en Europe.
D'accord.
En Europe, et je prends américain,
D'accord.
européen, chinois, peu importe.
Ok, super. Et donc, elle va sortir bientôt et on sera les premiers à sauter dessus. C'est un peu comme le journal.
First of all. Et oui.
Super, on est dans les temps, on a fini. Du coup, merci beaucoup, Anthony, pour toutes ces newsettes. Du coup,
De nada.
la semaine prochaine. La semaine prochaine, on fait notre deuxième épisode de Tech Jam Productivity avec Jérôme Blin, si je ne me trompe pas. Je crois que je ne me trompe pas. Et on va encore apprendre avec lui des nouvelles techniques pour rester zen tout en produisant bien et mieux et profiter aussi de la vie. Donc c'est d'ailleurs ce que je vous souhaite, de profiter du reste de votre après-midi, journée, nuit. Et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Merci beaucoup, au revoir. Salut Anthony, salut Miché.
Salut,
salut Sébastien.